France Culture.
En Roumanie, d'abord, le candidat pro-européen Nicu Ordan a gagné ce week-end l'élection présidentielle de justesse face à son rival nationaliste Georges Simion. En Pologne, maintenant, le libéral Rafał Trzaskowski est arrivé en pole position face au candidat national conservateur Karol Nawrocki. L'extrême droite, elle, a engrangé plus de 21%. Dans ces deux pays de l'Union européenne, comme dans plusieurs pays d'Europe de l'Est, des traits communs, une extrême droite forte, des soupçons d'ingérence russe, des nations scindées en deux, entre pro-européens et nostalgiques de l'URSS, des espaces parfois perméables au trumpisme, et au-delà des particularités de chaque pays, comment comprendre alors ces transformations politiques à l'Est de l'Europe? Pour tenter justement de mieux les saisir, deux invités ce soir. Catherine Durandin, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes historienne spécialiste de la Roumanie, professeure émérite à l'INALCO, l'Institut National des Langues et Civilisations Orientales. Le titre de votre dernier livre, Moldavie, le défi, un pari, s'est paru aux éditions Petra en 7 en 2024. Face à vous, Georges Mink, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes sociologue et politiste, directeur de recherche au CNRS. Vous êtes professeur émérite là-bas, professeur permanent au Collège d'Europe sur le campus de Natolie. Vous êtes auteur notamment de cet ouvrage intitulé « La Pologne au cœur de l'Europe, de 1914 à nos jours, histoire politique et conflit de mémoire ». C'est aux éditions Buchet-Chastel. Merci à tous les deux d'être présents ce soir dans « Questions du soir ».
Il y a eu des interférences russes, mais il n'y a pas eu que des interférences russes. Ce que l'on sait depuis que le renseignement roumain a publié des informations à ce propos, c'est qu'une unité du renseignement extérieur russe qui s'appelle APT-29, une unité de hackers informatiques, a attaqué en décembre la structure informatique qui accueillait les serveurs de l'élection présidentielle et compromis un serveur cartographique roumain. Ce que l'on ne sait pas aujourd'hui avec certitude, c'est qui est en revanche à l'origine de l'opération de manipulation des algorithmes de TikTok avec la production de vidéos générées par des influenceurs et accompagnées de commentaires massifs par 25 000 faux comptes. Et des journalistes roumains ont émis l'hypothèse qu'il pouvait s'agir d'une opération qui aurait eu pour origine le parti alors au pouvoir, qui aurait voulu fragiliser le candidat d'extrême droite en encourageant la division au sein de l'extrême droite.
David Collomb, professeur à Sciences Po, qui était l'invité des matins de France Culture le 5 mai dernier. Et dans ces deux élections, en Roumanie comme en Pologne, on parle énormément du poids de l'ingérence russe, des ingérences russes. Est-ce que ces ingérences vous semblent plus fortes ou bien le contexte économique, social de ces pays, de la Roumanie en particulier pour commencer, fait que ces ingérences sont plus à même de séduire une part de l'opinion, Catherine Durandin?
Alors, ces ingérences ont été fortes et sont fortes. Et il y a, en complément des informations qui viennent de nous être données à ce propos, un rapport extrêmement important et très nourri sur toutes les manipulations qui ont eu lieu au moment de novembre 2024, de l'élection qui a été annulée le 6 décembre, qui s'appelle le rapport Viginum et qui dépend des services du Premier ministre, qui est précieux pour tous ceux qui veulent en savoir un peu plus sur ces manipulations extérieures.
Premier ministre français.
Premier ministre français. Votre question, c'est quid de l'influence, quid des données, des facteurs qui peuvent expliquer le comportement électorale des Roumains. Ces influences, je dirais, elles sont d'autant plus fortes qu'il y a un phénomène trumpiste, avant d'en venir vraiment aux facteurs internes. Il y a eu une vague à partir de l'élection de Trump, et surtout à partir du mois de janvier, énorme, avec le sentiment que tout est possible hors de la démocratie traditionnelle, hors système. C'est on se débarrasse du système, on est là du système, le système nous contrôle, le système nous interdit la démocratie elle est absolument hors du système. Et quand je dis vague trumpiste, c'est pas seulement dans les propos que tiennent les Roumains, mais c'est dans les propos qu'ont tenus les Américains trumpistes sur la Roumanie et en Roumanie. Le premier qui s'est exprimé avec beaucoup de force, c'est J.D. Vance à Munich. Je signale que son discours qui condamnait l'annulation de l'élection, a été repris 3 jours avant l'élection du 18 mai sur la Roumanie et a été rediffusé. C'est vrai qu'il était bon, ce discours, il a été beaucoup cité. Deuxième intervention, celle de Musk. Il n'a pas recommencé pour la Roumanie, à ma connaissance. Troisième manipulation par la présence et la séduction de la présence, c'est le fils Trump qui est venu à Bucarest le 28 avril après un saut en Hongrie, en Bulgarie et en Serbie, où en Serbie, il rencontre un souverainiste roumain qui était incertain de « je suis avec les démocrates, je suis avec les souverainistes, je verrai au dernier moment », c'est ce qu'il a vu, il a un peu basculé du côté de d'Anne Nikouchor. Donc, grande réunion, vous allez voir, enfin, c'est pas négligeable et c'est pas un détail, autour de la notion de business, de développement du business, en Roumanie et en Europe orientale, parce qu'à l'Ouest, rien n'est possible, à l'Ouest européen, on croule sous les normes. Et qui organisait cette réunion? Celui qui avait organisé la campagne électorale de Calin Georgescu en novembre. Donc on a du Trump avec Calin Georgescu encore le 28 avril. Les élections ont eu lieu le 4 mai.
Mais alors expliquez-nous, Catherine Durandin, pourquoi la Roumanie intéresse tant les Trumpistes? On se souvient effectivement du discours de J.D. Vance. Il expliquait, au fond, les Européens sont antidémocrates puisqu'ils se mettent eux-mêmes à annuler des élections.
Parce que la Roumanie, tout simplement, pourrait être dans un axe qui semble se dessiner avec beaucoup de difficultés, si on en croit les coups de téléphone très longs passés entre Trump et Poutine. La Roumanie pourrait être un joyau est-européen dans un axe Poutine-Trump. Et la Roumanie pourrait être un bastion anti-Zelensky à la frontière de l'Ukraine. De plus, c'est un pays où les intérêts américains sont extrêmement forts. Pensez à la présence de Lockheed Martin, des F-35, et au projet, alors ça paraît contradictoire et ça l'est peut-être pas encore, au projet otanien américain de construction et de développement d'une base sur les bords de la mer Noire qui va compter plus de 10 000 militaires. Donc dans le présent, il y a des énormes intérêts. Dans le futur, il y a peut-être quand même un pays qu'on pourrait ramener à moins de démocratie libérale européenne.
On va revenir bien sûr sur la dimension stratégique, militaire que vous soulevez, Georges Ming. En Pologne, c'est le même constat, il y a une perméabilité aux idées trumpistes. Alors la Pologne n'occupe peut-être pas la même place dans les discours du camp de Donald Trump, mais tout de même, sur le plan des idées, est-ce que vous observez des points similaires?
Oui, à la surface, on peut dire qu'il y a des ressemblances. Mais en fait, la Pologne se différencie du cas roumain pour plusieurs raisons. D'abord parce que dans les deux forces qui polarisent la scène politique, il y a une force qui est ouvertement déclarée pro-Trumpiste. Elle est représentée aujourd'hui par le président de la République polonaise. Et de l'autre côté, les libéraux qui, eux, jouent plutôt l'Union européenne. Et ce qui unit les deux fractions, c'est quand même le rejet des influences russes, parce que la Pologne, d'abord, a une histoire chargée avec la Russie impériale. L'épouvantail russe existe toujours, et la réalité russe de tentations impériales qui s'exercent à la frontière de la Pologne, avec des missiles perdus, des chasseurs-bombardiers qui violent l'espace aérien. Il y a en permanence des provocations et les Polonais sont extrêmement sensibles à cela, au point que lorsque dans les élections actuelles présidentielles est apparu un candidat ouvertement pro-russe et qui probablement est un agent russe, lui proposant des solutions pacifistes, pro-russes ouvertement, tout le monde s'est coupé de lui, on l'a pratiquement évincé du débat. Donc là, il y a une sensibilité très forte à ces ingérences, au point que, par exemple, le ministre qui s'occupe de questions d'Internet, des influences via Internet et les médias sociaux, a créé une sorte de parasol électoral au-dessus pour trouver éventuellement des influences et les limiter le plus possible. Il y a eu aussi des rapports qui étaient publiés là-dessus. Il y a eu des influences de ce côté-là. Mais le côté popularité de Trumpiste, elle est liée à autre chose. C'est la vieille liaison transatlantique de la Pologne. La Pologne considérant que le seul pays qui peut réellement les défendre au cas où, c'est les États-Unis, que ce soit Biden ou Trump.
Donc c'est d'abord un américanisme bien plus qu'un trumpisme?
C'est exactement cela. C'est plutôt l'américanisme dans un secteur de la population, pas partout, mais c'est plutôt d'ailleurs la droite conservatrice. Ça a été illustré très bien pendant cette campagne électorale par le voyage surprise du candidat représentant la droite conservatrice à la Maison-Blanche pour se montrer et faire un selfie avec Trump.
Si on s'immerge justement dans ces sociétés dont vous êtes chacun les connaisseurs, Catherine Durandin, la Roumanie pour commencer, est-ce que vous observez, constatez dans l'opinion, dans les discours, une nostalgie, j'allais dire, de l'époque de l'URSS, de l'époque de la guerre froide? Est-ce que c'est présent? Est-ce que ça permet là aussi de comprendre que les ingérences russes, pro-russes, forment et reforment l'opinion?
Alors, je dirais l'ingérence russe, c'est le phénomène Poutine. C'est-à-dire, c'est le phénomène du dictateur fort. Et c'est le phénomène de l'homme qui, lui, aime sa patrie et qui défend ses traditions contre le wokisme, le LGTB, enfin, toute la décadence.
LGBT.
Oui, la décadence occidentale. Maintenant, la nostalgie de l'avant 1989, non. Il y a eu quelques discours très maladroits du candidat Simeone, déclarant « Oh, on s'est peut-être débarrassé trop vite de Ceausescu, peut-être qu'avant c'était mieux ». Je ne crois pas beaucoup à cette nostalgie. Par contre, il y a un besoin, mais interroger des électeurs en France du RN, il y a l'énoncé de même type de besoin et de même type de critique. La critique, c'est en démocratie, les gens ne font rien, les députés ne font rien, ils sont incompétents et ils sont corrompus. Bon, c'est la même vision en Roumanie. Les députés, qu'ils soient socialistes ou qu'ils viennent de la tradition libérale, ne font rien, n'ont rien fait. Le président Ioannis, qui a eu deux mandats jusqu'en 2018, n'a rien fait. En plus, ils sont corrompus. Ils sont tous corrompus. Donc, il faut dégager, se débarrasser d'un Parlement. Ensuite, la vision de Bruxelles. Bah, demandez au RN, si vous voulez, les députés, enfin les électeurs roumains ont la même vision. On a une souveraineté, on a des intérêts nationaux, il faut d'abord défendre nos intérêts nationaux. Sans quitter l'UE. Bon, on ne quitte pas l'UE, mais à l'intérieur, on est complètement dans la défense des intérêts nationaux. Alors il y a plus que ça aussi dans la demande de droite. Il y a l'Église, l'orthodoxie, la tradition, qui a une très forte influence. Alors, faut pas caricaturer. La Roumanie n'est pas la Russie, et le patriarche roumain n'est pas le patriarche Kirill. L'Église roumaine orthodoxe est divisée. Mais sa partie véritablement militante avait appelé à voter pour Calin Georgescu, envoyé de Dieu. Simeone n'est pas l'envoyé de Dieu quand on en a un, on n'en a pas deux généralement la même année. Et une grande partie aussi de certains milieux de monastères et de popes ont appelé à voter pour Simeone. Il y a une mobilisation aussi anti-droit des femmes à l'avortement qui fait vraiment partie du programme de la droite et qui donc n'a rien à voir sur ce plan-là avec les droites françaises.
Je voudrais peut-être prendre les arguments que vous venez d'exposer, Catherine Durandin, un à un. Le premier que j'ai entendu, Georges Ming, c'est la Russie comme rempart culturel, rempart face au wokisme, face aux droits des LGBT, face, dans le fond, à ce que promeut une certaine idée de l'Europe occidentale et de la Commission européenne. Est-ce que cette idée-là, cette idée de la Russie, c'est une forme de rempart culturel, on la retrouve également en Pologne?
Pas vraiment, parce que ce qui domine incontestablement, c'est les rejets tellement massifs de la Russie en tant que telle. Les discours de Poutine lui-même, qui avance ce type de valeurs, est rejeté totalement.
Il y a une peur russe en Pologne.
Il y a surtout une peur, et les Polonais se préparent réellement à une possible attaque russe contre la Pologne. Et donc, le niveau de débat culturel axiologique, il se joue à l'intérieur de la scène politique polonaise sans que une référence quelconque soit faite à des discours connus de Poutine. Il y a pas de corrélation entre les deux. En revanche, ces thèmes sont effectivement agités dans la campagne électorale par les différents secteurs de la scène politique, parce que la culture politique polonaise, elle est au moins bilatérale. Il y a d'un côté les libéraux qui, d'une certaine façon, ont fait les changements en Pologne depuis 1989. C'est eux qui sont les auteurs de la démolition du communisme. Et en face de cela, il y a des gens réactionnaires qui, à la fois, se ressourcent à la manière dont la Pologne est sortie du communisme, par une sorte d'entente entre les élites roses et les élites rouges, et de l'autre côté véhicule des vieilles traditions catholiques, fondamentalistes, polonaises, et donc présente ce type d'argument, mais coloré à la polonaise.
La dimension religieuse elle-même, la dimension catholique,
le poids
du catholicisme.
Elle joue énormément sur certains groupes de la population, parce que depuis une dizaine d'années, disons, en Pologne, l'Église commence à se retrouver dans une crise d'identité elle-même, en raison des scandales qui ressortent, pédophilie des prêtres, des choses comme ça. Et il y a une sécularisation avec des actes d'apostasie de plus en plus nombreux, surtout chez les jeunes. Et sans doute l'Église continue à influencer, y compris l'électorat, parce que les gens vont voter souvent dimanche après la messe et ils ont entendu bien sûr l'homélie du prêtre, et disons 80% de l'épiscopat polonais, de la prêtrise polonaise, est des côtés de la droite conservatrice.
Catherine Durandin, comment est-ce que la guerre en Ukraine s'est immiscée dans les deux élections qui ont eu lieu en Roumanie en quelques mois? Comment les Roumains eux-mêmes perçoivent ce conflit-là? Et comment ça se cristallise, là encore, du point de vue politique et du point de vue électoral?
Vous posez une question centrale dans l'actualité et depuis le début de la guerre. Dans le premier temps, les Roumains ont été profondément anti-russes et ont accueilli des milliers de réfugiés, ukrainiens. Aujourd'hui, pour deux raisons, il y a une extraordinaire lassitude de la guerre et une volonté de voir la paix signée au plus vite. C'est d'ailleurs ce qu'avait crié Calin Georgescu lorsqu'il avait fait son score de 23% lors des élections de novembre qui ont été annulées. Il a dit « Ma victoire, c'est la victoire de la paix ». Donc les Roumains veulent profondément cette paix. Maintenant, les immigrés, les réfugiés sont considérés maintenant comme un fardeau qui aurait des droits supérieurs à ceux qu'il faudrait leur accorder. Et dans le vote, ça s'est traduit ce rapport à l'Ukraine et à la guerre, principalement dans les régions danubiennes, dans les régions de Galats, Braila, Tulcea, qui ont voté à plus de 60% pour le candidat d'extrême droite, parce que c'est l'idée que lui ne va pas continuer d'apporter de l'aide à l'Ukraine. Donc c'est un phénomène majeur, cette attente et cette volonté de la paix. Ça a été aussi déterminant dans la manière dont la propagande anti-française, parce qu'on peut pas l'appeler autrement ces jours derniers, s'est développée en Roumanie, sur le thème que j'avais vu apparaître en Moldavie aussi lors des élections moldaves de l'automne, Macron veut la guerre et nous mettre en guerre.
Macron est perçu comme un belliciste.
Complètement belliciste et dangereux belliciste. Donc, il était en Moldavie, on me racontait que déjà des ingénieurs moldaves avaient été emmenés sous l'égide de la décision de Macron sur le front en Ukraine, avec évidemment la bénédiction de la présidente pro-européenne Maia Sandu, qui a une très bonne relation avec Macron. En Roumanie, c'est exactement la même vision, au point que il y a une fake news qui a circulé dernièrement et qui n'est pas anecdotique, c'est que des militaires français considérés par l'extrême droite comme des troupes coloniales, ce sont les troupes de l'OTAN, dans la base de Shinku, qui est une base de l'OTAN, et la France est effectivement nation cadre en Roumanie. Ils sont considérés comme des troupes coloniales, et on aurait déguisé des militaires français en gendarmes roumains pour semer le désordre, au cas où il aurait fallu semer le désordre.
Mais pardonnez-moi, pourquoi cela se cristallise-t-il sur la France, sur Emmanuel Macron? On aurait pu imaginer que allez, ça puisse aussi concerner Keir Starmer, le Premier ministre britannique, par exemple.
Macron a pris les devants et avec une politique européenne, avec les partenaires européens énergiques.
C'est le cas également du Premier ministre britannique.
Macron a un soutien peut-être plus tonitruant vis-à-vis de l'Ukraine. Macron était au Vatican à côté de Zelensky. Macron est visible dans l'appui à Zelensky. Macron était avec Trump et Zelensky à Notre-Dame pour la réouverture de Notre-Dame. Donc je dirais qu'il y a une figure qui est en leadership et qui apparaît et qui est cette figure qui est la cible violente de l'extrême droite. Un dernier mot. Simeone a déclaré dernièrement: la France a des colonies officielles, la Nouvelle-Calédonie, et officieuse, la Roumanie. Non, messieurs, la Roumanie n'est pas une colonie française. On en arrive à ce vocabulaire.
Georges Minke, la perception qu'on a de la Pologne, justement, dans le cadre de cette guerre en Ukraine, c'est d'abord un pays qui se remilitarise, qui veut augmenter sa dépense publique, justement, pour se protéger de l'adversaire russe, de l'ennemi russe même, qui pourrait peut-être un jour l'envahir. Mais dans le cadre politique, dans le cadre électoral, comment cette question de la guerre en Ukraine s'est-elle immiscée dans la campagne ?
Il y a des ressemblances avec le cas roumain en ce qui concerne les sentiments de la population. Dans la première phase du déclenchement de la guerre à l'échelle globale, les Polonais ont accueilli plus d'un million d'Ukrainiens dans un élan d'amitié, d'aide humanitaire. Le gouvernement polonais a donné du travail et des aides sociales. C'était pour l'essentiel d'ailleurs les femmes des militaires ukrainiens et leurs enfants. Et puis il y a petit à petit cette lassitude, un peu comme en Roumanie, pourquoi on leur donne alors que nous, on n'a pas la même chose. Et donc là-dessus commence à se jouer des jeux politiques, bien sûr. On essaye d'instrumentaliser ce premier mécontentement, cette vague de mécontentement, y compris dans les dernières élections. Il y a eu un autre élément qui a été soulevé en Pologne contre justement l'Ukraine, c'est le comportement des agriculteurs ukrainiens qui ont une agriculture, on sait, extrêmement riche et performante et sont des concurrents réels à l'agriculture polonaise. Et là, la paysannerie polonaise en particulier a joué un front anti-ukrainien et du coup anti-européen. Parce que on associait d'une certaine façon les libertés pour l'agriculture ukrainienne, la négociation par exemple sur les thèmes de l'acquis communautaire sur l'agriculture, la PAC, avec l'idée que c'est l'Europe qui est à l'origine de cela. Donc il y a eu cet élément-là qui a joué. Mais d'un autre côté, évidemment, les Polonais se disent si les Ukrainiens perdent, nous aurons des Russes chez nous. Et donc, c'est un pays tampon pour nous et il faut les aider à tout prix. Et ils font deux choses. D'une part, un soutien réel. C'est un hub, en fait, par lequel passent tous les armements aujourd'hui et toutes les aides pour l'Ukraine.
Les leaders, et beaucoup d'humains également qui rejoignent
l'Ukraine. Énormément d'aides humanitaires. Il y a même des soldats probablement qui ne représentent pas la Pologne per se, mais qui sont des Polonais et qui se battent là-bas. Et puis l'armement, c'est un autre aspect évidemment. La Pologne se prépare au pire. Et ceci est lié bien sûr au traumatisme historique de la Pologne, en suivant en cela d'ailleurs, en répondant à l'appel de Trump, puisque les Polonais vont consacrer cette année 5% du PIB à l'armement.
Et une nouvelle que l'on vient d'apprendre à travers l'AFP, le journal Le Monde, en Roumanie justement, Georges Simion demande l'annulation de l'élection présidentielle. Le candidat nationaliste battu au second tour de l'élection ce dimanche a annoncé aujourd'hui même son intention de déposer un recours pour obtenir l'annulation de l'élection en raison d'ingérences extérieures, notamment de la France. Je vous vois sourire Catherine Durandin, c'est peut-être Monsieur Macron lui-même qui est intervenu. Et il explique, je demande officiellement à la Cour constitutionnelle d'annuler l'élection. Votre réaction, Catherine Durandin ?
Écoutez, ma réaction, c'est qu'il y a 2-3 heures, j'étais chez moi et je suivais les informations roumaines et j'avais le sentiment que on allait vers une crise, et une crise grave, qui est déclenchée effectivement par Simion. Crise grave parce que le vice-président du parti AOR a pris la parole aujourd'hui, avant cette décision de Simion, et il a déclaré ceci: nous ne légitimerons pas une procédure qui ignore la réalité du vote et la volonté populaire. Nous ne légitimerons pas un président de l'abus, de la censure et du mensonge, une marionnette des intérêts étrangers. Et lorsque j'ai lu ça, j'ai pensé, ça y est, c'est fait. Il y a blocage.
Le patron de Telegram, l'application d'échange de messagerie instantanée, a accusé lui-même ce week-end la France d'ingérence en Roumanie. Si je reviens sur le fond de ces ingérences, est-ce qu'elles vous paraissent crédibles du point de vue français ? Est-ce que la France a pu intervenir dans le cours de ces élections d'une façon ou d'une autre ?
Alors, intervenir en bourrant des urnes ou directement sur les réseaux, ma réponse est non.
Maintenant, vous êtes clair sur ce point ?
Oui. Intervenir de façon diplomatique ou en affinité élective, en tant que pays ayant une présidence et un président pro-européen, ma réponse est oui. Et je suis persuadée qu'à l'ambassade de France où je n'étais pas, disons, j'imagine que l'on a pu recevoir des amis démocrates, humanistes, pro-européens, et avoir des propos de bienvenue et de satisfaction dans la rencontre avec ces gens-là. Ça s'appelle de la vie politique et de la diplomatie. Je ne vois pas pourquoi on accepterait de recevoir le fils Trump qui fait des discours accompagnant Calin Georgescu, et qu'on dirait du côté français, vous devez rester enfermé à la maison et ne pas sortir de l'ambassade avant que les urnes aient été dépouillées pendant 3 mois. Bon, donc oui, je pense qu'il y avait une tendance et des affinités et une volonté politique de soutenir la Roumanie dans ce qu'elle a d'européen aujourd'hui.
Georges Mine, votre réaction ?
Parlons de la proactivité de Macron. Effectivement, il est très présent en Europe centrale et par ses propositions concernant l'intégration européenne, notamment l'autonomie stratégique, et sa conviction qu'il faut soulager d'une certaine façon les Américains s'ils se retiraient dans cette hypothèse-là en ce qui concerne la défense de l'Europe centrale et notamment la Pologne. Et c'est l'objet, par exemple, une partie extrêmement importante du nouveau traité polono-français où c'est encore très vague. La France propose les parasols nucléaires à la Pologne et la Pologne ne les refuse pas, considérant qu'il ne faut pas mettre tous les œufs dans le même panier, que si l'aide américaine s'affaiblit pour des raisons idéologiques d'abord, caprice de Trump par ailleurs, il faudra bien jouer l'Europe. Et par chance pour la Pologne, aujourd'hui, les gouvernements et la majorité législative, elle est extrêmement pro-européenne. Donald Tusk est un grand pro-européen et il s'entend à merveille avec Macron. Et donc, il ne les rejette pas. C'est différent pour la droite, notamment celle qui a proposé les candidats pour la présidence et qui risque de gagner d'ailleurs, parce que eux, évidemment, sont totalement orientés sur les États-Unis et considèrent que l'Europe ne fera jamais rempart à la Russie.
Vous parlez du traité de défense signé entre la France et la Pologne le 10 mai dernier, dans lequel les deux pays s'engagent l'un envers l'autre par une clause d'assistance mutuelle. Exactement. En cas d'agression armée
c'est un des
sur
articles,
leur territoire.
C'est pas un traité de défense, c'est un traité global franco-polonais, qui comporte aussi des chapitres éducation, culture. C'est le renouvellement du traité qui existait depuis 1991, qui est devenu obsolète. Et donc, c'est un traité adapté et en même temps tenant compte précisément de la situation géopolitique actuelle.
Si on tire le fil de vos analyses, à l'un et à l'autre, Catherine Durandin, est-ce que le clivage pro et anti-européen en Roumanie, pour commencer, est fondamental justement pour comprendre comment se structure la société roumaine aujourd'hui ? Est-ce que cette société est bien clivée autour de cette question européenne ?
J'irai pas jusque-là, parce que c'est ce que je disais, je crois, tout à l'heure, il y a une espèce d'ambivalence. Les Roumains ont mesuré et mesurent que leur présence, leur intégration depuis 2007 dans l'Union européenne, leur a été bénéfique. Certes, elle n'est pas bénéfique pour l'ensemble de la population, il fallait sans doute avoir déjà un niveau de capital ou d'éducation pour véritablement pouvoir tirer profit des fonds européens, etc. Mais globalement, ils sentent bien que ça n'a pas été négatif à partir de 2007. Par contre, aujourd'hui, la critique fondamentale, c'est sur 2 points. 1, nous voulons la priorité de la défense de nos intérêts nationaux, absolument. Et 2, nous ne voulons pas des mœurs européennes telles qu'elles nous sont présentées, ces mœurs occidentales débravées. Et ça, c'est très fort.
Il faut dire un point, par ailleurs, Catherine Durandin, des Roumains qui vivent en dehors de Roumanie, le poids qu'ils représentent aussi dans cette élection, et notamment, paradoxalement, celles et ceux qui vivent en Europe occidentale.
Alors ça, c'est un point qui, effectivement, est très triste pour nous comme constat. C'est qu'effectivement, les diasporas roumaines en Europe ont largement voté plus à l'extrême droite que la population roumaine elle-même.
Comment on l'explique, ça ?
D'abord, il y a le phénomène de l'exil, le phénomène du départ, c'est-à-dire que c'était déjà des gens qui étaient en situation difficile ou en situation mauvaise ou sans espoir sur leur propre terrain. Il y a aussi, je crois, le sentiment d'être à l'étranger venant de Roumanie, un citoyen de seconde zone. Et on me parle beaucoup d'une impression de mépris. Et notamment, ce qui est aussi assez triste pour eux comme pour nous, c'est de dire « vous nous mélangez avec les Roms ». Or, un Roumain de souche ne veut pas être confondu avec un Rom. Et l'image des Roms étant mauvaise, ils pensent que l'image, leur auto-image non-Rom est mauvaise aussi. Et donc, il y a un sentiment d'être à l'écart de la bonne société.
Georges Hennemin, que je reviens un instant sur ce clivage autour de l'Europe, autour de la question européenne. Là aussi, en Pologne, comment est-ce que cette question-là structure le débat public et plus précisément dans le cas de cette élection présidentielle en cours actuellement?
Alors, il faut d'abord, en toile de fond, rappeler que la population polonaise était parmi les populations de l'Europe de l'Est, comme on dit, ou l'Europe centrale, la plus europhile pendant des longues années. Le taux tournait autour des 70% de pro-européens. Ça a tendance maintenant à diminuer incontestablement parce que certaines forces politiques, notamment la droite souverainiste, instrumentalisent les différents dossiers, conflits potentiels et concernant des secteurs de la population polonaise, par exemple l'agriculture, mais pas seulement, l'énergie, le pacte vert, enfin une série de questions qui sont à l'avant-poste de la politique européenne et qui en Pologne, bien instrumentalisées, produisent des clivages. Et c'est effectivement un des clivages qui est apparu fortement pendant ces élections. Les deux principaux candidats, l'un étant labellisé pro-européen à plus de 100% si c'est possible, et l'autre étant un anti-européen ou eurosceptique, mais mêlé d'anti-européanisme, qui défend le souverainisme national. Mais ça représente une tendance générale en Europe centrale aujourd'hui, cette montée qui est représentée très bien par le cas Orban ou le cas Fico et peut-être bientôt le cas Babiš en Tchéquie, cette tendance qui conteste en quelque sorte l'approfondissement de l'intégration européenne. Au nom de, et ça je pense ça recouvre aussi la question roumaine, au nom de la dignité nationale et l'identité nationale, au nom du souverainisme, nous sommes d'accord pour une Europe marché, une Europe qui donne de l'argent, bien sûr, mais nous ne sommes pas d'accord de transférer des compétences politiques, idéologiques, culturelles, éducatives à... Et là, on dit justement, peut-être il y a cette comparaison avec l'influence russe, Bruxelles semble devenir Moscou.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire le centre qui dicte la politique à tous ces pays et qui... ressemble à ce qu'était le pacte de Varsovie, le Comecon d'antan.
Vous semblez abonder, Catherine Durandin, Bruxelles, c'est le nouveau Moscou, c'est perçu comme tel en Roumanie également ?
Je souriais quant à Bruxelles-Moscou, puisque nous avons du côté des Roumains Paris égale Téhéran et la France est comparable à l'Iran, nous a dit sur CNews à Paris le 15 mai le candidat malheureux Simeon. La France est comparable à Téhéran. Je ne supporte pas les aspects dictatoriaux de Macron. Et l'une des députées...
C'est ce qu'il disait lui, hein.
Disait lui. Lui disait ça. Maintenant, l'une des députées d'un parti qui s'appelle le parti SOS Roumanie et qui est ouvertement pro-russe, qui est députée donc européenne, vient au Parlement avec une muselière pour montrer dans quel état elle est réduite par la contrainte européenne. C'est pire qu'à Moscou, j'ai jamais vu les Soviétiques avec des muselières.
Elle est venue avec une muselière aboyée, même éructée,
absolument,
j'allais dire, au sein du...
Et appeler un pop aussi pour nettoyer les
miasses. Du Parlement. Georges Minke, un dernier point commun peut-être entre la Roumanie et la Pologne, c'est la dégradation du contexte politique et du prestige de la fonction politique. Est-ce que cela, ça permet aussi d'expliquer le fait que, soudainement, dans le cadre d'élections, des hommes nouveaux surgissent dans le paysage et arrive à atteindre des scores que l'on juge soit étonnants, soit impressionnants?
Oui, c'est lié à la fatigue politique, la trentaine d'années qui sont passées, où les gens d'aujourd'hui, en quelque sorte, en particulier les nouvelles générations de jeunes, considèrent que les politiques ne font rien. Ça recouvre un peu
ça rejoint ce qui a été
dit par Catherine. Les élites nous ont trahis, elles ne font rien, elles profitent, mais leurs politiques et leurs promesses ne se réalisent jamais. Et donc, il y a une dégradation du statut du politique et ça autorise effectivement des chances à des nouveaux politiques apparaissant avec des nouveaux contenus, mais souvent on arrive à accrocher ces nouveaux contenus à des anciennes mythologies réactionnaires.
On l'a dit, hein, c'est en Roumanie le candidat pro-européen qui l'a emporté de justesse, hein, Nuco Zordan. Est-ce que malgré tout, Catherine Durandin, pour le moyen terme, vous êtes inquiète de la tendance qui se dessine en Roumanie, la tendance politique ?
À cause de tout et à cause de l'actualité, je suis parfaitement inquiète, non pas pour le moyen terme, mais pour le très court terme. J'ai entendu lu Calin Georgescu, dire hier « La lumière ne vient pas des élections ». Bon, d'où vient-elle ? D'où va-t-elle venir ? Et j'entends aujourd'hui Georges Simion contester les élections, donc enclencher un processus de blocage. Je me pose une question, toute simple, liée à l'actualité très précise. Le soir, lorsqu'on apprend le résultat des élections, Simion refuse de reconnaître qu'il a perdu.
Il a attendu minuit pour reconnaître les résultats.
Et il a déclaré « J'amènerai Georgescu au pouvoir ». Je me suis demandé, par les urnes, comment ? Il a attendu, vous avez parfaitement raison, beaucoup plus tard dans la soirée, il a accepté sa défaite. Deuxième point, ce que je ne comprends pas, il a quitté Bucarest après avoir accepté sa défaite. Qui parle derrière Simion ? Alors, il y a des mots qui viennent de Russie, les mots de soi-disant élection, c'est venu de Moscou. Il y a un petit attentisme qui vient de Washington, Trump, des États-Unis, avec une diplomatie remarquable, n'ont pas encore félicité M. Nuco Zordan. Ils attendent pour coopérer avec lui. Ils attendent quoi ?
Vous posez la question.
Je pose la question.
Georges Mignon, en quelques mots, vos pronostics pour le second tour des élections présidentielles en Pologne, c'est déjà se dessine là encore des tendances ?
La réponse est très difficile parce que c'est vraiment très serré. Tout dépendra des reports des voix, bien sûr. Mais en même temps, la difficulté pour les reports, c'est que chacun des partis qui a réussi à avoir un peu, et notamment celui le plus à droite, qui a réuni beaucoup de voix des jeunes, et il veut garder cet acquis. Parce que dans 2 ans, il y aura des élections législatives et donc on relancera la compétition politique. Et il faut donc vivre d'ici là, ne pas trop céder aux gagnants, aux deux possibles gagnants. Et donc moi, je m'aventurerai pas vers un pronostic, même si je donnerais un petit avantage à celui qui représente la droite conservatrice.
Merci à tous les deux de ces analyses passionnantes et inquiétantes. Catherine Durandin, Georges Minck.